Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud.
Et bonjour Florian.
Aujourd'hui, on va parler un peu analyse sociologique. Tu as montré un peu l'importance de la relation humaine, surtout en ces périodes de fête, qu'il est important de fêter ça en famille, fêter ça de façon
Humaine, justement, oui, par humaine, opposition à toute la robotisation dont on a parlé dernièrement.
Tu vas parler de la réforme des retraites, ce qui pousse les gens à sortir de la rue pour manifester, par exemple.
À sortir dans la rue, et ce qui ne les pousse pas aussi, parfois.
Voilà, donc les deux points, en fait.
Tout à fait. En particulier, je me suis vraiment posé la question de pourquoi est-ce que, là, on avait une cristallisation des mécontentements qui faisait que les gens réagissaient, je vais presque dire, enfin. Et qu'est-ce qui avait fait qu'auparavant, ils ont avalé couleuvre après couleuvre, sans véritablement bouger, quoi.
Peut-être la continuité d'un mouvement aussi, on verra ça.
Peut-être, peut-être. ou le début d'un autre, espérons.
Bien sûr.
Effectivement.
La privatisation de l'aéroport de Toulouse.
Oui, on va l'évoquer très rapidement, puisque, en fait, on a surtout vu que les Chinois qui avaient eu le bonheur d'acheter cet aéroport il y a quelques années ont complètement vidé les caisses et que maintenant, ils vont revendre leur aéroport pratiquement le double de ce qu'ils l'avaient acheté, avec l'assentiment du gouvernement dans les deux cas. Et effectivement, c'est le genre de choses qui font qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les jours des gens dans la rue, quoi, effectivement. Voilà. Alors, on commence si tu veux, parce qu'on a un programme bien chargé.
Ouais.
Alors, tout d'abord, joyeux Noël à tous quand même, effectivement. Moi, je voudrais rappeler l'importance de l'humanité dans ce contexte-là. Les rapports sociaux, les moments qu'on passe avec les autres.
Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Comment dire ?
D'échange d'humanité, ouais. Quoi. Je trouve qu'au contraire, quand même, malgré tout, ce qu'on voit, c'est beaucoup de gens qui y attachent de l'importance. Je veux dire, même ne serait-ce que n'importe quelle publicité pour te vendre un smartphone ou pour te vendre n'importe quoi de technologique, on te montre quand même la famille ricorée qui sourit ou les amis qui rigolent entre eux autour d'une bonne table au restaurant ou quelque chose comme ça. À chaque fois, c'est de toute façon ça qui est privilégié parce que c'est ça qui touche les gens. C'est ça qui est notre priorité, qu'on en ait conscience ou pas. Donc, on discutera au cours des semaines prochaines de tout cette avancée robotisé, on va dire, même dans le secteur des services, même dans le secteur des choses qui sont complètement humaines, comme par exemple les restaurants où on va servir les gens et où on commence à essayer de dire qu'on va mettre des drones serveurs à la place des personnes. Enfin, tu nous disais la semaine dernière, est-ce qu'on a envie de parler à des robots ou est-ce qu'on a envie de parler à des gens? Moi, je crois que c'est très clair, quoi. Il n'y a pas grand monde qui a envie de parler à un robot. Donc, simplement, ce que je veux dire, voilà, on est dans des trucs délirants. Voilà, vous prenez, on en reparlera une autre fois, mais vous prenez Google qui a inventé une lentille directement greffée sur l'œil qui peut avoir un émetteur radio, prendre des photos, enfin, c'est des trucs délirants. Bon, je vous laisse regarder l'article.
On cligne de l'œil, on prend une photo,
c'est ça? Ça pourrait. Ça, l'article de 20 minutes que je vais vous citer vous donnera juste un petit aperçu de la chose, mais on peut se renseigner plus avant. Bon, là, c'est un article du 2 mai 2016 qui s'intitule « Google préparerait une lentille connectée directement greffée sur l'œil ». Ils l'ont fait maintenant depuis. Mais effectivement, voilà, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Regardez les gens qui sont dans la rue, ils sont là pour défendre les retraites et pour défendre pas uniquement eux-mêmes, mais également, parce qu'il y en a qui ne seront pas concernés par la retraite, mais pour défendre plus socialement, plus solidairement un système social de protection qui est là pour justement faire un filet de sécurité pour aussi les plus fragiles. Et je pense que là, c'est un petit peu aussi l'aboutissement d'une série de mécontentements, d'un ras-le-bol général. Et qui fait que là, les gens sont dans la rue. Alors, pour moi, ils bougent, ils réagissent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a quelque chose qui touche tout le monde. On a une ficelle qui est vraiment trop grosse aussi, la manière dont on a essayé de nous justifier cette réforme avec des arguments qui, finalement, sont battus en brèche très facilement. Moi, je vous invite à écouter Adrien Quaten, qui est député du Nord et qui est coordonnateur chez La France Insoumise. Il est passé chez LCI avec Amélie Carwer. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui s'intitule « pourquoi il faut retirer pourquoi il faut obtenir le retrait de la réforme des retraites. Voilà, le retrait des retraites. Et l'idée, effectivement, c'est qu'il explique vraiment très clairement comment, par exemple, là, on va plafonner le montant global alloué pour l'ensemble des retraites de tous, sachant qu'on est dans un processus de vieillissement de la population, et donc on sait parfaitement bien que les parts du gâteau vont aller en s'amenuisant, même si on prétend que, comme c'est indexé sur le PIB et que le PIB va nécessairement augmenter, eh bien, ceci va compenser cela, alors qu'on sait très bien qu'on est dans un cycle de croissance extrêmement faible en France, avec une inflation cachée, dont on a déjà parlé dans les émissions antérieures, et au contraire, une situation de stagnation qui va, au contraire, faire que le gâteau ne grossit pas, quoi. Voilà, donc la ficelle était trop grosse d'une part, d'autre part les gens ont bougé parce que ils se sont sentis en groupe, si vous voulez, ils se sont sentis unis avec d'autres.
Unis avec plus de force, bien sûr.
Et quand on est tout seul, on n'ose pas bouger, même si on est très mécontent. Par contre, si on sent qu'un peu partout, les gens réagissent là, on va oser se lancer. Et puis, effectivement, s'il y a une voie toute tracée, des choses simples à faire, comme ne serait-ce que d'aller manifester tel jour, les gens vont avoir plus tendance à le faire.
Et plus il y a demande, plus ça motive aussi aux gens de se dire tiens.
Exactement, il y a un mouvement d'entraînement qui se fait. Et voilà, alors c'est pas uniquement panurgien, c'est aussi l'idée de se sentir soutenu et appartenir à un groupe, c'est très très humain. On a toujours, depuis très très longtemps, je dirais même depuis le temps de la préhistoire, été conditionné par notre survie était conditionnée par l'appartenance au groupe, quoi, hein. Donc on cherche aussi à faire ce que les autres vont faire. Ça peut être un avantage ou un inconvénient, évidemment, en termes de manipulation des foules. Là, on est quand même plutôt pour la bonne cause, puisque là l'idée c'est quand même que vous avez des gens qui vont essayer justement de réagir de façon groupée, et ça marche. Mais il faut souvent un noyau, syndicaliste ou autre, qui va leur montrer la voie, entre guillemets, on va faire ça, qui propose une action. Parce que souvent, les gens vont dire, mais voilà, oui, faire, mais quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et souvent, s'il y a une idée derrière laquelle on peut se rallier, eh bien, ça va entraîner une dynamique.
C'est important de proposer une idée sur la table, on a posé sur la table et de dire, voilà.
Alors évidemment, ça n'aura peut-être pas l'adhésion de tout le monde et de tous à un moment donné, mais dans un premier temps, déjà, ça fédère et ça fait bouger. Donc ça, c'est quand même très bien.
Et tu trouves qu'il y a des personnes aussi qui pourraient manifester sur des trucs, mais qui ne le font pas ?
Mais qui le
dans
font
l'autre
pas.
Sens, du coup.
Oui, alors justement, je m'étais un peu interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens, en fait, des fois ne bougent pas du tout, alors qu'on en a avalé des couleuvres, je veux dire, en termes de loi liberticide, si vous pensez simplement, alors déjà à la loi qui impose les 11 vaccins pour les enfants à naître, sous peine de pas d'école, la loi sur le secret des affaires, qui était surtout une loi sur, pour empêcher les lanceurs d'alerte vraiment de tirer la sonnette d'alarme. Vous aviez la loi anti-casseur, qui était surtout une loi anti-manifestation ou anti-manifestant, etc., etc. Et puis toutes les lois de récession sociale, la loi travail, la loi sur la SNCF, la loi là maintenant sur les retraites, il y en a à l'appel. Donc effectivement, pourquoi on n'a pas bougé avant ? Alors moi, je dis qu'effectivement, il me semble qu'on s'appuie sur des traits humains. Et quelque part, le gouvernement navigue avec ces traits humains. Alors là, il y en a un, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité qu'a l'être humain de s'adapter à une contrainte progressive. Donc la rébellion ne prend corps, on va dire, que si la situation devient vraiment intenable ou si les mesures qui sont prises dépassent la capacité d'adaptation de la population. L'idée, c'est que, de façon générale, vous le voyez au niveau gouvernemental, on évite de prendre des mesures qui seraient trop soudainement drastiques. Les gouvernants s'adaptent, ils serrent la vis, mais progressivement, quand il y a quelque chose. Une autre grosse qualité humaine, c'est l'espérance, c'est la capacité à espérer un avenir meilleur, à penser que ça ira, qu'on va y arriver quand même, que malgré les difficultés, demain, on va s'en sortir. Ça se traduit par diverses choses. Par exemple, quand les politiques négatives sont annoncées d'avance, elles sont avancées d'avance pour une mise en application décalée dans le temps. Ce qui va faire que les gens
oublient.
Ils oublient, ils s'habituent à l'idée, ils vont espérer que finalement, peut-être, on va quand même y échapper ou qu'elle sera annulée, qu'il se passera quelque chose. Et des fois aussi, ils se laissent berner un peu par le fait que les mesures intermédiaires, les mesures aigres-douces, on va dire, qui sont annoncées au début du processus, seront en fait la finalité et que les choses ne se dégraderont pas un peu plus. Alors par exemple, c'est pas terrible, mais on pourra encore s'en sortir, etc. Alors qu'en général, au contraire, je vous parlais de cette gradation des choses, les mesures impopulaires, elles sont prises graduellement avec une application progressive et on ne révèle pas dès le début la finalité, parce que sinon ces mesures, même les premières, seraient combattues en fait. Hein. Donc l'aboutissement du parcours est soigneusement caché. On en a parlé cet été par exemple en ce qui concerne l'homéopathie, où on a commencé en début d'été à faire le déremboursement de l'homéopathie et où on n'avait pas commencé à dire directement on s'attaque aux médecines naturelles pour favoriser la médecine conventionnelle et les laboratoires pharmaceutiques, sinon ça aurait fait un peu trop gros. Mais effectivement, on savait très bien que derrière, après avoir rassuré la population, en octobre, il était déjà prévu que le Conseil de l'Ordre, et le Conseil de l'Ordre l'a fait, a annulé la reconnaissance du diplôme de l'homéopathie, ce qui fait que il n'y aura pas de nouveaux médecins homéopathes formés à l'avenir. Voilà.
C'est un peu comme le prix du tabac et le prix de l'essence, on ne va pas l'augmenter de 2 euros d'un coup.
Voilà,
on va y aller progressivement de façon à ce que...
Voilà. Même si on a en tête depuis le début cette idée. Voilà.
Et puis 5 ans après, on se rend compte que 5 ans avant, c'était beaucoup, beaucoup moins cher. Et là, on se dit, ah ouais.
Et c'est souvent plus facile d'empêcher un processus dès le début, en fait, de le stopper si on peut dès le début. Le problème, c'est souvent qu'on a l'impression que, bon, allez, c'est pas si mal, c'est pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Et que donc, ça va s'arrêter là, quoi. Hein. Alors qu'en fait, effectivement, c'est souvent beaucoup plus en amont ce qui est prévu. Alors juste je vais vous faire un petit écho à quelque chose que j'avais trouvé, alors à vous de le vérifier, mais une confession qu'on prêterait à monsieur Juncker, donc c'était l'ancien leader de l'Union européenne, d'accord, ça serait paru dans le numéro 52 du magazine allemand le Spiegel, S-P-I-E-G-E-L, je ne sais pas si je le prononce bien parce que je ne fais pas allemand, c'était en 99, c'était la page 136, et effectivement voilà ce qu'il aurait dit. En allemand, je vous donne la traduction. D'abord, nous décidons quelque chose, puis on le lance publiquement. Ensuite, nous attendons un peu et nous regardons comment ça réagit. Si ça ne fait pas scandale et ne provoque pas d'émeute, parce que la plupart des gens ne se sont même pas rendus compte de ce qui a été décidé, nous continuons pas à pas jusqu'à ce qu'aucun retour ne soit possible. Voilà, je laisserai nos lecteurs germanophones vérifier les sources. C'est le Spiegel numéro 52 de 99, page 136. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée de... Et je pense que M. Juncker est très loin d'être le seul à appliquer cette méthode. Ça doit être relativement généralisé. Alors, moi, je pense effectivement aussi qu'il y a une volonté qui fait que les gens ne vont pas réagir, une volonté de croire les arguments officiels qui sont donnés pour justifier les mesures, parce qu'effectivement, ça correspond à un sentiment rassurant de la bienveillance des autorités à notre égard. L'idée générale, si vous voulez, c'est qu'on a quand même tous été assez formatés avec l'autorité parentale, puis l'autorité scolaire, ensuite l'autorité étatique. On a été formatés à nous intégrer dans la société, à respecter cette autorité, à la fois pour qu'il y ait la possibilité de vivre en société, et parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est rassuré quand on fait partie d'un groupe, parce que c'est un atavisme, si vous voulez, depuis très longtemps, notre survie a toujours été conditionnée par le fait qu'on était en groupe et qu'on pouvait s'entraider, s'entreprotéger, etc. Mais également, évidemment, dans notre enfance, généralement, l'autorité parentale représentait un cadre bienveillant, de soutien, d'expertise, etc. Et donc, à mon avis, on reporte aussi un petit peu spontanément, sans s'en rendre compte, cette vision sur les autorités gouvernementales et autres. Et remettre tout ça en cause, c'est fondamentalement effrayant, parce que ça nous place dans un contexte d'insécurité. Je veux dire, quand tu es sur un bateau et que tu as perdu toute confiance dans le capitaine, c'est un peu effrayant. Donc, il est plus facile de continuer à essayer de faire perdurer cette confiance parce que ça te rassure, plutôt que de regarder souvent en face les choses qui vraiment ne vont pas. Effectivement, elles ne vont sans doute pas, des fois, même de façon très extrême. Je vous invite à regarder cet article du Canard enchaîné. Donc, c'est le Canard du 18 décembre 2019. Vous avez un article intitulé le jackpot des Chinois de Toulouse, 200 millions de plus-value et 30 millions de dividendes pompés à l'État grâce à Macron. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous souvenez qu'en 2015, alors que M. Macron était au ministère de l'économie, il a favorisé l'achat par une société chinoise, visiblement avec 10 000 euros de capital seulement, de l'aéroport de Toulouse. Et que dans l'intervalle, eh bien, ils ont complètement siphonné la trésorerie de l'aéroport, et ils ont également décidé le transfert aux actionnaires de non plus 50% des bénéfices annuels comme auparavant, mais 100% des bénéfices annuels. Voilà. Et là maintenant, ils sont sur le point de vendre leur part à la société Eiffage, sachant qu'ils revendraient 507 millions ce qu'ils ont acquis pour 308 millions. Donc en fait, on est dans un pillage complet des comptes publics, d'accord, et du manque à gagner, vous imaginez ce qu'il y a derrière. Et puis tout cela dans une circonstance où en fait, eh bien, on a normalement un État qui était censé veiller à nos intérêts et qui a fait exactement le contraire. Je vous invite à regarder cet article de Mediapart du 16 juin 2016 intitulé « Aéroport de Toulouse, Macron rattrapé par son mensonge ». En fait, vous y voyez très clairement le fait que le gouvernement était censé garantir le fait que ensuite, la gestion serait faite en bon père de famille, la gestion de cet aéroport serait faite en bon père de famille et qu'il n'y aurait pas de débordement ou de pompage de finances comme ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est avéré que en même temps que Monsieur Macron rassurait la population en disant qu'il gardait un œil clairement sur les aéroports de Blagnac, à ce moment-là, en même temps, il signait un accord avec les Chinois indiquant qu'il leur donnait en gros carte blanche et qu'il s'engageait à leur vendre à terme les 10% de parts qu'ils conservaient, que l'État conservait. Donc on est dans une situation clairement où sciemment, comme il a été fait pour Alstom, dont on a déjà parlé dans cette émission, et peut-être pour d'autres, eh bien, on a bradé les intérêts des Français. Donc, voilà, pensez que... l'État a constamment la bienveillance de nos intérêts à cœur, c'est être, à mon avis, quand même encore très naïf et peut-être avoir cette envie de se rassurer, comme je vous le disais. J'invite simplement... nos éditeurs également à regarder d'autres thématiques, par exemple celle de la santé. Vous avez dans le hors-série de Nexus du 1er décembre un article intéressant sur le professeur Beljanski qui s'intitule « Les anticancéreux de Beljanski, une thérapie qui dérange » et qui fait écho à ce très intéressant livre publié par donc les éditions Le Souffle d'Or. C'est Sylvie Beljanski, c'est la fille du professeur Beljanski, qui donc signe ce livre intitulé « Gagner la lutte contre le cancer ». Mmh. Et en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Beljanski, si je résume très rapidement, c'était un chercheur émérite de l'Institut Pasteur qui avait été vraiment très très apprécié en son temps, qui a découvert des traitements anticancéreux naturels extrêmement efficaces, qui avaient même été utilisés par le président Mitterrand en son temps quand il avait été atteint du cancer, et qui dérangeait, parce que je suppose qu'on préfère, vendre des médicaments pendant très longtemps temps aux cancéreux plutôt que de vraiment les guérir, ça rapporte plus. Et donc effectivement ici, eh bien, il avait quand même eu son laboratoire, ses laboratoires, il en avait deux si ma mémoire est bonne, victime d'un raid du GIGN qui a confisqué tous ses expériences, ses produits,
motif,
etc. Il n'y a pas besoin de motif. Le motif, il est très clair. Je veux dire, il n'y a pas de motif officiel. On n'a pas mis sur la place publique qu'on allait faire un raid sur le laboratoire du docteur Beljanski. Le souci, il n'est pas le seul. Et alors, on fera des émissions spécifiques là-dessus parce que c'est très intéressant. Il est très loin d'être le seul. Vous avez une série de 4 livres donc, qui s'intitule « Savant maudit, chercheur exclu » de Pierre Lance, que je vous invite à lire. Si vous avez du temps pendant ces vacances, ça serait une bonne idée. Voilà, ça vous montre en fait toute une série de personnes qui ont développé des systèmes généralement alternatifs, naturels, peu coûteux de guérison d'un certain nombre de maux et qui ont été l'objet d'une exclusion, d'une persécution parfois. Parce qu'il était souvent bien plus rentable de développer des traitements coûteux et non curatifs que les patients allaient pouvoir prendre sur une longue durée, voire à vie, et qui allaient derrière être particulièrement néfastes. Voilà. Par exemple, les effets secondaires des traitements de l'asthme, qui sont tout à fait décrits également dans ce hors-série de Nexus dont je vous parle, du 1er décembre. Vous avez la thérapie Guesserey, qui permet de corriger, en corrigeant le squelette, si tu veux, de guérir de l'asthme, et de guérir le psoriasis, et de guérir l'eczéma, qui serait lié à des problèmes de posture. alors qu'on va te traiter quelqu'un qui a de l'asthme pendant toute sa vie, c'est beaucoup plus rentable. Donc quelqu'un comme M. Guesseret avait essayé de présenter sa méthode pendant pratiquement une vingtaine d'années sans qu'on cherche à l'écouter. Voilà. Donc si vous voulez, on en reparlera. Et on complétera ce balayage sociologique dont je vous parlais là la semaine prochaine. Mais les raisons qui poussent à croire que nos meilleurs intérêts ne sont pas toujours au cœur des préoccupations gouvernementales, elles sont multiples. Et effectivement, on en parle abondamment dans cette émission, on y reviendra. Je vous invite en tout cas à lire l'histoire du professeur Beljanski. C'est particulièrement, édifiant. Donc, Gagner la lutte contre le cancer de Sylvie Beljanski aux éditions Le Souffle d'Or.
Merci beaucoup, Maud.
Merci. À la semaine prochaine.